Nous sommes parvenus à un diagnostic sur ce qui fait crise dans la démocratie. Pour résumer ce diagnostic dans les termes théoriques les mieux appropriés, la structuration autonome n'est pas l'autonomie. Elle peut même lui tourner le dos. La caractéristique fondamentale de la période que nous vivons en Europe depuis le tournant des années 1970, c'est la décantation en bonne et due forme de la structuration autonome dans ces trois registres, politique, droit et histoire. C'est autrement dit la fin de la transition moderne engagée depuis le XVIe siècle et qui présentait ces éléments, le politique, le droit, l'histoire, dans des formations de compromis avec la structuration hétéronome. Nous pouvons dire avec de bonnes raisons, je crois, nous sommes devenus absolument modernes. Mais cela ne donne pas le résultat qu'on eût été en droit d'attendre. Nous sommes bien dans des sociétés qui fonctionnent selon des principes tirés de la seule raison humaine, qu'il s'agisse des règles du jeu politique, des normes juridiques en vigueur ou du maniement des forces de toute nature qui contribue au changement social, nous pouvons dire même que nous sommes passés dans des sociétés de la connaissance qui ont expurgé le pouvoir, la société ou l'histoire de la part de mystère qu'ils continuaient de receler jusque tout près de nous, pour installer à leur place des savoirs positifs et des règles dûment réfléchies. Nous savons très précisément ce que nous mettons dans le pouvoir, comme ce que sont et doivent être les rapports sociaux réglés de part en part par le droit, jusque y compris la fessée pour les enfants, vous savez. Quant au domaine de la production et des échanges, il est par excellence le domaine où la recherche de l'efficacité raisonnée a balayé tout ce qui pouvait subsister de coutumes, de routines et de façons de faire irréfléchies. Et pourtant, ce fonctionnement structurellement et intellectuellement autonome n'a pas grand-chose à voir avec ce que serait une autonomie véritable, telle que nous pouvons la pressentir sur ses bases. Encore est-ce que je m'avance beaucoup en parlant de ce pressentiment. Car le malaise commence avec le fait que l'idée d'autonomie elle-même s'est brouillée. Elle a été préemptée et détournée par le droit. Le droit au sens, une fois encore, des fondements du droit, des droits fondamentaux. Le droit qui tend à réduire l'autonomie à l'autonomie individuelle comprise comme la capacité d'agir en toute indépendance. Autonomie parfaitement illusoire et même contradictoire dans les termes, si l'on creuse l'idée, on le sait depuis longtemps, mais sans aller dans cette direction, on peut se contenter de l'observation empirique que cette pseudo-autonomie ne procure aucune prise sur ce qui vous environne. et sur le monde commun où vous coexistez avec d'autres. Indépendance, certes, mais dans l'impuissance. Et même un peu plus. Car un monde commun où chacun prétend faire valoir son indépendance de droit jusqu'au bout, c'est nécessairement un monde de marché, réglé par des arbitrages automatiques et dont la résultante globale échappe à tous. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons gentiment. Non sans que cela réveille, par contraste, heureusement, le sens authentique de cette autonomie dont nous nous éloignons, alors que nous en avons en principe tous les moyens. Autonomie, c'est la puissance de se comprendre et de se gouverner en commun. La première chose à comprendre dans la situation actuelle étant justement ce qui nous détourne de l'exercice de cette puissance dont nous avons les moyens. La seconde étant de savoir si nous avons des leviers à notre disposition pour nous extraire de ce fourvoiement qui obéit à des motifs puissants. Nous avons localisé plus précisément le foyer de la crise dans le phénomène de méconnaissance qui préside au fonctionnement de nos sociétés. Une méconnaissance paradoxale, puisqu'elle constitue l'envers de la connaissance qui guide officiellement ce fonctionnement. La décantation de la structuration autonome a en effet libéré la place d'une société de la connaissance organisée autour de l'expansion du complexe juridico-technico-marchand. Société de la connaissance fait donc de ce mix de sciences juridiques, de sciences exactes, de sciences économiques. Dans leurs différents compartiments. La rationalité positive et autocritique, au moins à première vue, en ce sens, on peut bien l'admettre, réflexive, puisque tournée vers son propre progrès, la rationalité positive est au pouvoir. Sauf que cette société de la connaissance a pour propriété remarquable d'ignorer ce qui lui permet de fonctionner et les limites de sa dynamique. Elle dissimule ses bases et sa nature à ses acteurs. Elle est portée par une sorte d'auto-occultation de la structuration autonome dans ses différentes dimensions. Auto-occultation du politique infrastructurel derrière la politique selon le droit. Auto-occultation de la nature médiatrice du droit qui cache l'appartenance derrière l'indépendance des individus de droit, auto-occultation de l'histoire qui voile la continuité des temps derrière la production de l'avenir au présent. La méconnaissance n'empêchant pas les choses méconnues d'exister, surtout quand elles sont les bases effectuantes de l'existence commune, il en résulte d'abord un grand trouble, un profond malaise, le sentiment de vivre dans un théâtre d'ombre, sans prise sur la réalité. Trouble et malaise qui poussent dans le sens de ce qui est déjà la pente spontanée de nos sociétés, à savoir le repli de leurs acteurs sur l'existence privée. À quoi bon s'en mêler puisqu'on n'y comprend rien ? À ce renforcement de l'occultation par le renoncement à l'affronter, il faut ajouter le puissant blocage interne qui tient à la force intrinsèque de ces savoirs positifs. Ils sont autosuffisants en ceci qu'ils tendent à exclure du dedans le questionnement sur leur signification et leurs bornes. Ils fonctionnent comme une prison mentale pour leurs praticiens. Une prison dont on peut certes s'évader, les exemples existent, mais ils ne foisonnent pas. Nous connaissons tous des juristes, des scientifiques, des économistes qui s'interrogent sur ce qu'ils font, mais ils ne sont pas légion. Ce qui ouvre une interrogation abyssale sur la raison humaine sur la raison dans sa version moderne, en tout cas, et sur la pensée humaine en général. C'est dire, en tout cas, que de lui-même, le monde que cette configuration dessine ne pousse pas vers sa remise en question. Il est solidement en place. Il est quand même habité par la négativité. Il est travaillé par la déshérence de la politique et l'impuissance démocratique. Il sécrète une formidable frustration quant à la substance de ces rapports sociaux encadrés par le droit et réglés par l'échange marchand. Il y a quelque chose d'invivable, le sentiment en est répandu, au bout de cette société organisée par la sécurité juridique et l'accessibilité monétaire. Et qui plus est, surtout, la dynamique de l'artificialisation du monde humain social qui constitue le fond de ce que nous nommons bien mal capitalisme est carrément suicidaire. Le constat est désormais acquis. Pour autant, il a beau être largement partagé, il ne mobilise pas. Il ne provoque pas sérieusement à la réflexion et à l'action. Hors de quelques correctifs, finalement, marginaux. Tellement il est difficile de concevoir autre chose. Cette situation pose inévitablement la question de savoir si le terme de l'expérience moderne n'est pas une impasse. Si ce déploiement en règle des articulations de la modernité autonome ne vérifie pas la prophétie de l'échec du projet moderne, formulé depuis longtemps déjà par de bons esprits, et actualisé tout récemment, par exemple, par Rémy Bragg, dans un livre important. Je n'en crois rien. Si puissante soit-elle, cette configuration n'est pas le dernier mot de la modernité et la fin d'histoire. Une fin d'histoire en forme d'autodestruction. Il existe dans ce dispositif des ressources latentes pour réintégrer le politique dans la politique, pour réarticuler le droit et l'appartenance, pour réenglober l'économie dans une histoire assumée pour telle. C'est ce que je voudrais essayer de montrer au cours des dernières séances qui nous restent. Il convient de repartir, pour ce faire, de la dimension sans doute la plus originale et la plus lourde de conséquences de la structuration autonome, c'est-à-dire l'orientation historique. C'est sur ce terrain, me semble-t-il, que les choses décisives sont appelées à se jouer. En particulier, la conquête de la réflexivité authentique qui en constitue l'arme déterminante, l'opérateur clé de la réforme intellectuelle et morale en mesure de nous sortir de l'impasse. L'impasse de notre modernité inachevée, certes, mais surtout fourvoyée. La spécificité de l'orientation historique nous a été masquée longtemps par la prégnance structurante de l'ordre de la tradition et de son principe d'identité des temps. Ce qui a été est et sera. Cette prégnance de la tradition a conditionné durablement, jusqu'il y a quelques décennies à peine, la compréhension de la conscience neuve du changement et de l'expérience collective placée sous le signe de la production de l'avenir. Celle-ci a été vue dans la continuité de l'histoire antérieure, supposée obéir au même principe dynamique, simplement à un rythme moindre, et de ce fait sans que ses acteurs en soient conscients. De là les idées dans lesquelles les philosophies de l'histoire se sont égarées. L'idée que le présent européen était l'aboutissement nécessaire de l'histoire universelle, aboutissement livrant le sens de son parcours, et l'idée d'un achèvement de l'histoire dans la toute conscience d'elle-même et la société en pleine possession d'elle-même. D'où aussi bien la perception familière, depuis l'émergence de l'orientation historique au XVIIIe siècle, d'une accélération de l'histoire. Perception de l'ordre d'un constat, elle, sans prétention philosophique, mais d'une récurrence frappante. Nous sommes libérés de ces hypothèques. La décantation de la structuration autonome, et en particulier l'effacement de ce qui subsistait de structuration selon la tradition, nous a délivrés de ces présuppositions enracinées qui accréditaient les philosophies de l'histoire. Non, sans un prix élevé à payer par ailleurs. Mais enfin, nous avons la possibilité de penser l'orientation historique dans sa spécificité et dans sa portée de rupture, hors de la contrainte de la lire dans la continuité expresse du parcours qui précède. Nous avons du même coup la possibilité de la lire hors de la perspective d'un aboutissement, d'un achèvement, d'une totalisation terminale. C'est cette liberté qu'il nous faut exploiter. Il nous faut l'exploiter contre l'unilatéralisme inverse qui s'est aussitôt installé, selon la propension habituelle de nos esprits, de sauter d'une demi-vérité ou d'une erreur à l'autre, de l'effacement de la continuité du temps, des temps qui rendait le devenir palpable, pour ainsi dire, et incitait à croire à sa directionnalité, on a eu vite fait de passer, en effet, à l'idée que l'histoire n'existe pas, qu'elle n'a été qu'une chimère, que les grands récits n'étaient que des fables pour les enfants. Il y a des changements, soit, mais ça s'arrête là. Il s'accélère peut-être, mais dans tous les cas, il ne dessine aucun parcours cohérent. On peut s'amuser à les établir avec exactitude, si l'on veut, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Nous sommes revenus, à cet égard, au scepticisme, qui a une longue tradition intellectuelle au monde occidental et que Descartes en particulier avait exprimé avec sa vigueur habituelle. ce scepticisme, le constat est frappant, touche même les esprits qui devraient être les plus concernés par ces limites. Je suis frappé ainsi par le fait qu'un Alain Badiou, avec lequel, comme vous savez, j'ai eu l'occasion de croiser le fer il n'y a pas longtemps, je suis frappé par le fait qu'il peut formuler le constat avec lequel je m'accorde aisément, que nous sommes revenus d'une certaine manière aux années 1840, aux années de formation du mouvement ouvrier et de l'idée socialiste, cela sans qu'un instant l'idée semble l'effleurer que la première tâche dans ce contexte est de rebâtir une explication plausible de l'histoire et de définir des perspectives à l'action historique. Ce qui était l'évidence partagée de tous les acteurs du mouvement ouvrier socialiste des années 1840. Le jeune Marx parmi eux. S'il y a une grosse différence entre les années 1840 et les nôtres, elle est là. Elle n'est pas, cette lacune, cette indifférence à la perspective de l'explication historique et des perspectives qu'elle ouvre à l'action, n'est évidemment pas étrangère à la démobilisation générale que l'on observe. Avec l'idée communiste, pour tout viatique, dans la difficulté d'ailleurs de la définir, et sans la moindre considération sur la façon dont elle peut se greffer sur les conditions réellement existantes de la société d'aujourd'hui, on peut espérer aller très loin. C'est entendu, il n'y a pas de nécessité interne d'un développement historique. Il n'y a pas de sens de l'histoire, de but au sens, dans l'acception de but vers lequel elle se dirigerait. Il n'y a pas de tout de l'histoire universelle et de totalisation finale à en attendre. Mais c'est sur cette base, justement, qu'il faut repenser l'expérience historique. Il faut la repenser dans son unité. Elle ne constitue pas une totalité fermée, destinée à se clore sur une apothéose en forme de ressaisie totale. Soit. Mais elle possède néanmoins une unité qui est une donnée d'expérience sensible. Nous nous retrouvons, j'y faisais allusion dans une séance antérieure, dans les vestiges de formes d'humanité infiniment éloignées dans le temps. Nous nous sentons concernés par eux, c'est nous. Nous sommes de la même aventure humaine. Comme nous nous retrouvons dans des formes de société dont la culture nous est radicalement étrangère, voire antipathique. Nous nous y intéressons, nous cherchons, nous nous sentons dans l'obligation de les comprendre, d'y entrer, d'autant plus même éventuellement qu'elles nous sont antipathiques. Pourquoi nous sont-elles ? Cela aurait pu être nous. Nous participons d'une même expérience susceptible de direction et d'expression variée. Soit il n'y a pas de sens de l'histoire si l'on met sous ce mot une direction unique et un but vers lequel elle se dirigerait. Mais elle n'est pas pour autant le règne de la contingence pure. Ce qui s'y passe a du sens, si elle n'a pas de sens. Ce qui s'y passe a du sens, à la fois pour ces acteurs, même s'ils sont souvent perplexes à l'égard du mouvement dans lequel ils sont pris et auquel ils contribuent, mais ils ne doutent pas, même s'ils l'ignorent, que ce mouvement comporte une signification qui leur échappe, et ce qui s'y passe a du sens pour nous qui nous efforçons, après coup, d'y reconstituer des enchaînements intelligibles. Si l'histoire n'obéit pas à une nécessité immanente qui la pousserait en avant, au travers et à l'insu de ses acteurs, il ne s'y passe pas pour autant n'importe quoi. Elle gravite autour d'enjeux déchiffrables qui possèdent leur logique et leur cohérence. C'est sur ces bases qu'il nous faut repenser l'expérience historique. La première exigence étant de réinterroger ce qui nous permet de la penser. Car il ne s'agit pas d'un objet de la nature, il s'agit d'un objet pour la pensée tout récent. Ce qu'on pouvait mettre auparavant sous le nom d'histoire étant très différent de ce que nous y mettons depuis, disons, les années 1800. Sans entrer pour le moment davantage dans la chronologie de la constitution de cet univers de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a livré accès à cet objet auparavant inconnu? Pourquoi cette neuve conscience de l'histoire que ne possédaient pas nos prédécesseurs avant la fin du XVIIIe siècle? L'interrogation est névralgique par rapport aux philosophies classiques de l'histoire, dont c'est l'impensé majeur en même temps que le leur. Elles postulent toutes, en fait, que la prise de conscience de l'histoire est une propriété inhérente au processus historique lui-même, et une propriété qui en révèle l'essence. Là est le coup de force dont naissent les philosophies classiques de l'histoire. Ce processus historique est fait pour aller vers la pleine conscience de lui-même. C'est sa nature et c'est sa destination. Tout le reste se déduit de ce présupposé constitutif. À commencer par l'annexion de l'ensemble du passé humain à ce moment privilégié de la fin de l'histoire comme totalisation consciente de son cours, déjà advenu ou sur le point d'advenir. Or, ce présupposé ne résiste pas à l'examen. Une analyse un tant soit peu rigoureuse de la formation du concept synthétique d'histoire. L'histoire comprise au singulier comme l'élément englobant dans lequel se fondent toutes les histoires particulières. Une analyse un tant soit peu rigoureuse de l'apparition de la conscience de l'historicité des communautés humaines montre quelles sont fonctions de ce fait historique lui-même qu'est le basculement de l'activité collective vers l'avenir dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Un fait qui ne relève d'aucune prédétermination dans la marche des sociétés humaines, mais d'une discontinuité, d'un changement d'orientation par rapport à l'organisation temporelle des sociétés antérieures. Je ne reviens pas sur l'enchaînement intellectuel qui a conduit de la percée première de la notion de progrès autour de 1750 à l'idée d'histoire proprement dite et à la conscience historique. J'en ai détaillé la logique dans des séances antérieures. Ce qui m'importe ici, c'est l'enregistrement de cette corrélation. Ce qui a déterminé l'émergence de la conscience historique, c'est la réorientation pratique de la vie de nos sociétés vers le futur. Sous l'aspect d'un travail sur l'existant en vue de l'améliorer, de le perfectionner, de l'accroître, qu'il s'agisse de la législation, des ressources ou plus généralement des conditions de l'existant, la médecine, la santé publique. Ce que l'on peut résumer dans le concept d'orientation historique. Puisqu'au-delà de sa dimension pratique, qui est primordiale, cette projection dans l'avenir a pour effet d'entraîner une réinterprétation d'ensemble de la condition humaine sous l'angle de son historicité. Réinterprétation qui attend qu'on en tire toutes les conséquences. C'est d'une certaine manière, me semble-t-il, l'enjeu par excellence de notre présent. Si ce basculement vers l'avenir ne procède d'aucun plan prédéterminé du devenir, s'il ne correspond pas à un stade ou à une phase obligée de l'aventure humaine, il a cependant un sens, et un sens fort. Il s'intègre dans le déploiement de l'autonomie moderne. Et il en représente une dimension supplémentaire qui en élargit formidablement les perspectives. Le surgissement du politique avait marqué une première étape de ce déploiement de l'autonomie, en produisant une structure permettant à la collectivité de se gouverner selon ses raisons propres, ses raisons immanentes. Le droit, sous les traits du principe de légitimité moderne, les droits de l'homme, pour faire simple, avait ajouté une dimension supplémentaire à cette État moderne, ce pouvoir de se gouverner, qui restait indéfini, doit être l'expression de la nation. Entendons l'expression de la volonté générale des citoyens composant le corps politique. C'est avec cette dimension révolutionnaire que l'on entre dans l'ère de l'autonomie proprement dite, l'autonomie explicite, la puissance collective de se donner sa propre loi. Mais le parcours de l'autonomie ne s'interrompt pas là. Contrairement à ce que le piège de l'explicitation tente à nous faire croire, à partir d'un moment où un principe devient explicite, eh bien, tout a été dit. Eh bien, non. Et d'ailleurs, la philosophie politique s'arrête généralement en ce point, dans sa genèse, sa reconstitution de la genèse de la modernité, puisque là, on a les principes, on a tout, en regardant ce qui suit comme contingent extérieur à son sujet. Or, ce qui suit, à savoir l'orientation historique, est en plein dans le sujet, au contraire. L'autonomie, cela va être aussi l'autoproduction concrète, tant matérielle qu'intellectuelle, du monde humain dans l'ensemble de ses aspects. Voilà l'enjeu de l'orientation historique. Comme dimension de l'autonomie. Dimension, on le devine tout de suite, de toute la plus problématique. Ne serait-ce que par ses conséquences pratiques, qui sont gigantesques. Nous mentionnons que la première, l'explosion du nombre des hommes. Ce n'est pas un problème théorique, mais c'est un problème pratique qui comporte de sérieuses conséquences. Une dimension tellement neuve au regard de tout ce qu'on avait connu, une dimension tellement grosse d'implication qu'elle va faire croire au surgissement d'une vérité jusqu'alors enfouie de la destinée humaine. Et à la possibilité d'opérer sur la base de cette vérité une rupture complète avec toutes les formes de société précédemment existantes. Cela au profit d'une société vraiment sociale, sans exploitation ni domination, la société socialiste ou communiste. C'est le surgissement de cette perspective qui est au cœur des années 1840 que j'évoquais à l'instant, quand l'impact de la révolution industrielle rend impossible à méconnaître, impossible à ignorer le monde inédit qu'elle amène avec elle. L'erreur de perspective fondamentale du mouvement ouvrier socialiste qui émerge alors va être de surestimer, avec une grande partie des philosophies de l'histoire, la nouveauté et la portée de l'élément historique. Et du coup, l'erreur va être de vouloir jouer l'élément historique contre le politique et le droit. Comme si l'élément historique contenait la possibilité de nous délivrer du politique et du droit. Vite dit, bourgeois. Vite associé à des sociétés de domination et d'exploitation. C'est ce grand cycle de l'idée de révolution socialiste ou communiste comme expression de la découverte de l'histoire, c'est ce grand cycle qui se referme aujourd'hui en nous ramenant, d'une certaine façon, en effet, au point de départ, aux années 1840. Le premier point le premier pas de la reconstruction consiste, à mon sens, à réinsérer, au contraire, l'élément historique dans la ligne du politique et du droit en tant qu'expression structurelle de l'autonomie, composante parmi d'autres d'un monde autonome à articuler avec les deux autres. Le juste discernement de ce qui est poursuivi au travers de l'orientation historique est l'étape préliminaire indispensable pour parvenir à la maîtrise des problèmes qui s'y posent. Le plus aigu de ces problèmes étant évidemment la marche aveugle et suicidaire de cette autoproduction vers un technocosme autiste, découplé de l'univers naturel. Autrement dit, le problème écologique saisi dans sa signification véritable comme le problème inhérent aux modalités de cette autoconstitution du domaine humain. Le surgissement de cette nouvelle question des limites nous contraint à nous réinterroger sur la signification de ce que nous poursuivons au travers de cette artificialisation technico-marchande et à réintégrer par ce biais l'orientation historique au sein de la dynamique d'ensemble de l'autonomie. Cette réinscription de l'élément historique dans l'autonomie nous est facilitée par ailleurs par son expansion même qui a ruiné les philosophies de l'histoire et qui nous permet, ce faisant, de regarder d'un œil neuf ce qui est en jeu dans cette projection vers le futur et l'univers de l'histoire qu'elle a fait apparaître à sa suite. Car il ne faut pas s'y tromper, c'est l'approfondissement de l'orientation historique qui a sapé les bases des philosophies de l'histoire. et dissout ce qui les rendait pensables et croyables. Il eût été flatteur pour l'intelligence collective de penser que c'est à une lucidité nouvelle que nous devions cette critique justifiée des philosophies de l'histoire. Il n'en est malheureusement rien. C'est le socle qui les portait qui a défailli au point de remettre en question, de brouiller, voire d'effacer l'idée même d'histoire. D'une manière générale, et très normalement, il a fallu du temps pour prendre la mesure de la portée de cette réorientation temporelle de l'existence collective qui a changé tout à la fois le rapport au passé, la manière d'habiter le présent et la relation à l'avenir. Car l'univers historique, il faut le souligner sans cesse, contre la préemption du terme d'histoire par les sciences historiques, l'univers historique est un univers à trois dimensions. L'univers de l'histoire faite au passé, accessible en effet à la connaissance objective. L'univers de l'histoire se faisant, ou en train de se faire, autrement dit l'univers de l'actualité dont nous avons à nous informer, et l'univers de l'histoire à faire au futur, l'univers de l'action historique, des projets, l'univers de la politique, de l'action délibérée des sociétés sur elles-mêmes. C'est cette troisième dimension qui est en fait motrice. Il y a des sciences historiques au passé parce qu'il y a de l'action historique en direction de l'avenir. En fait, les trois dimensions évoluent ensemble et changent de concert. Elles s'élargissent et s'approfondissent parallèlement. Car cette réorientation pratique vers le futur ne s'est pas faite en un instant, comme le basculement de la Terre sur son axe. Elle s'est introduite et diffusée très progressivement contre la structuration temporelle selon le passé de la tradition et en passant compromis avec elle. Elle a commencé timidement sous le nom de progrès par une démarche d'amélioration de l'existant grâce à la raison. Progrès, c'est toujours rationalisation, dimension essentielle sur laquelle il nous faudra revenir. Et puis, ce travail en vue du progrès futur se révèle comporter une dynamique cumulative qui assure son expansion et lui confère une portée transformatrice toujours plus grande. Il y a à écrire une histoire interne de l'orientation historique qui serait une histoire réellement total, associant histoire matérielle et histoire intellectuelle, l'économie, la politique, les idées, dont au premier chef l'idée de société, corrélat de l'orientation historique, retombée majeure de l'orientation historique, dont les métamorphoses suivent son expansion, une histoire qui serait tout à la fois une histoire de la conscience historique au passé, des sciences historiques, une histoire de la conscience historique au présent, et donc du système de l'actualité et de l'information, et enfin une histoire de la conscience historique au futur, une histoire de l'anticipation, du projet, des idéologies, de l'organisation des sociétés autour et en vue de l'avenir. Nous avons croisé mains échantillons de cette histoire de l'orientation historique, nous en avons défini les grandes lignes, mais autre chose serait de la pousser dans son détail. Et elle éclairerait beaucoup de choses. Pour ce qui nous importe ici, je souligne juste deux choses afin de caractériser la situation qui est la nôtre. Premièrement, en dépit de cette formidable expansion de l'orientation historique sur deux siècles, expansion, je le note au passage, qui n'est pas à comprendre comme une mystérieuse accélération de l'histoire en général, mais beaucoup plus simplement et sans aucun mystère, une amplification interne de l'orientation historique, un élargissement de la sphère de l'action historique et de la puissance d'histoire de nos sociétés, un approfondissement de la conscience historique et un renforcement de l'organisation en vue du changement. L'histoire des sociétés depuis deux siècles est l'histoire de l'accroissement de leur capacité de se changer en fonction d'une organisation de plus en plus efficace du changement. C'est leur propriété la plus singulière. En dépit de cette expansion et de la détraditionnalisation qui l'accompagne, en dépit de cette expansion, la structuration hétéronome selon le passé de la tradition demeure organisatrice et déterminante. On a affaire à une série de compromis qui se déplacent, qui se renégocient entre projection futuriste et continuité obligée avec le passé. C'est ce compromis qui constitue le support de la crédibilité des philosophies de l'histoire et de la principale d'entre elles, qui devient le marxisme associé au mouvement ouvrier. Les postulats fondamentaux de la philosophie de l'histoire s'enracinent dans cette combinaison de la projection vers le futur et de la dépendance envers le passé. D'où l'idée, selon laquelle l'histoire humaine constitue une totalité orientée vers un but qui ne peut être que son accomplissement conscient. Ces postulats que Henri Lefebvre, dans un de ses derniers livres, résumait dans une trinité parlante, si je me souviens bien, finitude, finalité, finition. Finitude, l'histoire constitue un tout clos, donc qui va vers un terme. Finalité, directionnalité de l'histoire. Finition, elle est destinée à se ressaisir elle-même dans un terme qui est la maîtrise consciente, la compréhension de son développement et la possibilité d'une société en pleine possession de la science d'elle-même. Ce n'est pas le tout de constater l'épuisement des grands récits. Il faut se demander pourquoi et à quel moment, dans quelles conditions, ils ont cessé d'être crus. Et la réponse à cette question ne me paraît pouvoir être trouvée que par ce compromis entre orientation vers l'avenir et organisation selon la dépendance envers le passé. Deuxièmement, la décantation de la structuration autonome qui s'opère à la faveur du tournant des années 1970 a eu pour effet précisément de liquider ce compromis. Elle parachève la détraditionnalisation et elle libère la radicalisation de l'orientation historique. Pour la première fois, celle-ci règne en bonne et due forme, sans plus rien pour la limiter, sur un plan structurel. Nous sommes dans la première société organisée intégralement selon le point de vue de sa propre production, de son application à elle-même pour se changer. Et cela donne ce résultat parfaitement inattendu, qui se résume dans le triple dispositif de la patrimonialisation du passé, de la médiatisation du présent et de l'économicisation de l'avenir. Intellectuellement, cette mutation brutale s'est traduite par l'évacuation des philosophies d'histoire, qui ont perdu tout crédit. Elles ont quitté le champ du croyable et du pensable. Chose remarquable, d'ailleurs, ce qui subsiste dans le champ politique d'options révolutionnaires ne s'articule plus sur la revendication d'une pensée de l'histoire. Et on peut en effet parfaitement imaginer d'autres supports de l'idée de révolution, tout simplement même l'idée de volonté humaine, qui n'a pas besoin de s'appuyer sur une raison historique déterminante pour fonctionner. Aucun des postulats de base des philosophies de l'histoire ne fait plus sens, hein, que ce soit l'idée d'une totalité de l'histoire universelle, de l'idée d'une direction de l'histoire ou l'idée d'une fin d'histoire. Fin de l'histoire conçue comme aboutissement dans une totalisation consciente. Simple précision pour écarter les confusions nées du livre fameux de Fukuyama. La fin de l'histoire dont il parle, c'est pas la fin de l'histoire dont parlent les philosophes de l'histoire. Et cette déconsidération des philosophies de l'histoire va encore plus loin que la philosophie, puisque l'idée même d'histoire, avec un grand, au singulier et avec un grand H, s'est éclipsée dans ce contexte. Elle ne fait plus sens spontanément. Et on peut comprendre pourquoi. Elle supposait que l'action au présent s'inscrivait dans une continuité vécue avec le passé, qu'il s'agissait de prolonger, comme elle supposait sur l'autre bord un lien vivant avec l'avenir comme accomplissement prévisible des virtualités contenues dans ce rapport du présent avec le passé. Plus rien de tel ne fait immédiatement sens. De ce qu'il ne fait plus immédiatement sens, il ne suit pas qu'il a perdu tout sens. Ce qui occupe les esprits, c'est le présent. Ce n'est plus le passé de la tradition dont nous nous écarterions fâcheusement, ce n'est plus l'avenir révolutionnaire auquel tous nos efforts devraient conspirer, c'est ce présent et le travail d'autoproduction en direction du futur qui s'y mène et qui l'occupe entièrement. Mais ce travail est, par définition, coupé du passé, même s'il repose sur son acquis. Et cet acquis est reconnu. Il est structurellement matérialisé dans la patrimonialisation du passé. Mais cet acquis, en tant que tel, ne nous dit rien de ce que nous avons à faire. Il est à reprendre à zéro. Nous avons même là une nouvelle définition du présent historique. Le présent, c'est cette liberté vis-à-vis du passé qui nous permet d'en reprendre l'acquis à zéro. C'est pas le présent psychologique qu'il s'agit, présent d'une expérience historique. Et si ce travail d'autoproduction n'a de sens qu'en vue du futur, vers lequel il est tourné de part en part, ce futur ne peut être conçu que comme une résultante dont on présume qu'elle constituera une optimisation par rapport au présent, plus de toute chose, richesse, capacité technique, connaissance, efficacité, mais une résultante qu'il serait parfaitement vain de vouloir enfermer dans un projet d'ensemble pour en définir les contours. C'est proprement cela, le présentisme. Ce n'est pas, comme on le voit souvent écrit, le culte de l'immédiateté ou du court terme. C'est en fait la saisie, c'en peut être des expressions, mais ce n'est pas ça le fond du problème. C'est en fait la saisie du présent par un avenir à produire, dont l'effet paradoxal est de nous rendre étrangers au passé sur lequel nous nous reposons et de nous empêcher de donner un visage à cet avenir auquel nous travaillons. Voilà notre situation. Maintenant que nous sommes totalement dans l'histoire, celle que nous faisons, et que nous n'avons plus de concept d'histoire, immédiatement accordé à l'expérience sensible que nous avons du changement qui travaille et auquel travaillent nos sociétés. Cette situation est à la fois hautement problématique en pratique et intellectuellement libératrice. Et c'est ce volet libératoire que nous allons essayer de creuser. Problématique en ce qu'elle offre son théâtre d'opération à la société de la connaissance telle que nous en avons circonscrit le principe. Le déploiement du complexe juridico-technico-marchand dans son irréflexion consubstantielle. Irréflexion savante et non pas ignorante. Non pas l'irréflexion du préjugé que combattaient les Lumières avec l'idée en elle-même juste que l'éducation viendrait à bout de cette irréflexion de préjugés acceptés sans examen. Notre problème à nous est autrement subtil et retors. L'irréflexion à laquelle nous avons affaire, une fois que l'éducation a gagné, tout n'est pas gagné, nous avons affaire à l'irréflexion autrement redoutable du savoir, celle qui se loge dans un type de savoir et de progrès du savoir incapable de se réfléchir. Du point de vue du parcours que nous avons essayé de reconstituer, on voit bien ce que veut dire, très concrètement, présentisme au regard des avancées de ce complexe juridico-technico-marchand. Le passé lui est rigoureusement indifférent. Il n'est d'aucun intérêt pour lui. Il n'a rien à lui apprendre. Puisque ce complexe juridico-technico-marchand contient entièrement ses raisons en lui. Et au regard de ses praticiens, ce passé n'est en fait, en général, compris que comme une barbarie irrationnelle dont on ne voit vraiment pas pourquoi on se préoccuperait. Il vaut mieux l'oublier. Il a juste l'étrange propriété d'avoir produit des artistes remarquables, et c'est bien tout ce qu'il y a à en sauver. Pourquoi d'ailleurs, on se demande. Quant à l'avenir, il est impossible à concevoir, hors de la logique interne de ce complexe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ce que cela donnera concrètement au juste, peu importe. On sait ici et maintenant tout ce qu'il y a à en savoir. Ces règles de fonctionnement seront les mêmes et nous aurons un résultat en forme d'accroissement dans tous les cas. Les autres problèmes, qui ne sont pas minces, découlent de cette irréflexion et de la méconnaissance qu'elle sécrète, telle qu'elle se traduise, dans une organisation et une dynamique sur lesquelles nous reviendrons. Mais ce que je veux souligner par contraste, c'est la face libératrice de cette situation, qui ne suffit pas d'accuser. Libération vis-à-vis, justement, des contraintes très lourdes que représentaient ces présupposés des philosophies de l'histoire. Ils enfermaient la pensée dans un cercle où il y avait des choix. D'abord, il y avait plusieurs philosophies de l'histoire de modèles comparables, mais offrant des options différentes aux diverses sensibilités politiques, en fait. Mais un cercle où le choix n'était ultimement qu'entre des pensées dogmatiques de l'histoire et des pensées critiques. Elles existaient, et elles avaient raison d'exister, des pensées critiques sceptiques vis-à-vis de ces dogmes des philosophies de l'histoire, mais incapables de produire des pensées alternative de l'histoire convaincante. Elle soulignait avec raison les limites de la nécessité historique, le doute qu'on pouvait concevoir sur ses perspectives de fin de l'histoire, mais elle ne disait pas substantiellement ce qui se jouait dans l'expérience historique. Elle n'était qu'une négativité vis-à-vis de l'enthousiasme dogmatique dangereux des convaincus d'aller vers le terme de l'histoire. Nous sommes sortis de ce cercle et nous avons, c'est une chance qu'on ne saurait trop souligner, à en exploiter les possibilités. Cette libération nous met en mesure de développer une réflexivité critique vis-à-vis de cet enfermement dans la méconnaissance, qui est le mécanisme ordinaire du fonctionnement des savoirs selon lesquels fonctionnent nos sociétés. Cette libération permet de reconstruire une pensée de l'histoire critique, mais productrice d'intelligibilité de l'objet historique, sur trois fronts que j'énumérerai rapidement et que dont nous verrons qu'il y a l'essentiel à en tirer. Première exigence, contre l'enfermement de la conscience autonome à l'intérieur de ses prémices, dont la traduction directe est le présentisme, replacer le développement moderne à l'intérieur de l'histoire humaine en général. Elle n'en est pas, le développement moderne n'en est pas l'aboutissement nécessaire, il n'en est pas le point culminant, il n'en est pas la maturation naturelle, il en est l'un des possibles. Il ne s'agit pas d'annexer à ce développement moderne l'ensemble du passé, mais il s'agit de le comprendre comme une virtualité sensée à l'intérieur d'une palette d'autres virtualités qui se sont actualisées, ou d'ailleurs pas toutes, on peut en imaginer d'autres, une virtualité qui est à caractériser pour elle-même, mais cette fois du dehors, par rapport à d'autres dispositions et orientations dont l'expérience historique de l'humanité a été le théâtre. Deuxième ouverture, il est possible, à partir de là, de caractériser l'objet de l'orientation historique. Elle est traversée et organisée par une visée. L'invention de l'avenir gravite autour d'un axe. Un axe au regard duquel la notion classique, weberienne par exemple, mais il y en a bien d'autres, et antérieures expressions, la notion de rationalisation ne suffit pas. Il faut dire, l'objet de l'orientation historique, c'est la concrétisation de l'universel abstrait produit par la raison. Qu'il s'agisse de l'universel abstrait du droit, de l'universel abstrait des sciences et de la technique, ou qu'il s'agisse, on l'oublie toujours celle-là, mais elle est pourtant bien puissante, l'universel abstrait de la monnaie, du principe de commensurabilité qui permet d'évaluer toute chose. Troisième ouverture, cet objet, une fois circonscrit, il est possible de caractériser également, plus précisément, l'objet de la méconnaissance ou de l'irréflexion que nous voyons à l'œuvre dans la dynamique de nos sociétés. Ce qui est précisément méconnu par cette dynamique, ce sont les conditions de cette concrétisation de l'universel abstrait. Et en même temps que ces conditions, les limites de cette concrétisation. C'est justement sur cette limite que nous butons. Et c'est en enregistrant cette limite que nous pouvons commencer à répondre à la question « Comment passe-t-on de l'irréflexion à la réflexivité véritable ?» Qui est-ce que cherche la société de l'histoire depuis son point de départ ? Mais peut-être avons-nous fait quelques progrès dans la manière d'appréhender cette dynamique et les possibilités de sa réalisation, c'est ce que nous envisagerons dans les séances qui viennent.
Entre ces deux pans de philosophie de l'histoire dans lequel la philosophie de l'histoire du marxisme est le fil que vous reprenez là dans vos cours. Qu'a fait la philosophie pendant ce temps-là? Vous l'avez évoqué plusieurs fois. Vous avez parlé de l'existentialisme, il me semble. Vous avez parlé de philosophie de l'absolu, qui travaillait sur l'absolu, sur l'aspect absolu. Parce que j'ai vu récemment des films d'Antonioni, qui se passent donc dans les années 60, 60, 61, 62, et qui me semble bien tapé dans cette interrogation de l'homme au moment de cette histoire qui s'ouvre un peu brusquement sur la modernité d'après-guerre. Et ces films sont vraiment réellement un questionnement, on peut dire, du temps où le film appelle le temps. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez tirer le fil de la philosophie entre ces deux temps de philosophie d'histoire?
Vous savez, grosso modo, ce sera grosso modo. Il y a beaucoup de demeures dans la philosophie, c'est normal. Le problème principal de la philosophie moderne, depuis Descartes, c'est le problème de la connaissance. Et ça l'est resté. Si vous prenez la philosophie la plus contemporaine, elle s'occupe très peu de problèmes politiques, historiques ou sociaux. Le gros de l'activité philosophique, ça reste le problème de la connaissance, avec l'alternative dominante dans la philosophie d'aujourd'hui entre, d'un côté, le courant analytique et de l'autre côté, le courant phénoménologique. Mais il s'agit toujours de savoir à quelles conditions nous pouvons connaître ce que nous pouvons connaître, dans quelles limites et quels moyens avons-nous d'accéder à la connaissance qui nous intéresse le plus, qui est l'objet de la phénoménologie. Donc, effectivement, ce sont des questions parfaitement légitimes. Et ce sont des questions qui ont repris du relief avec l'éclipse de la philosophie de l'histoire, qui, à les grandes époques du marxisme, occupait tout le devant de la scène. Précisément, je crois qu'on peut considérer le moment sommital des philosophies de l'histoire, c'est conventionnel ce que je dis, mais pourquoi pas, la critique de la raison dialectique de Sartre, qui me paraît la dernière tentative, d'autant plus significative qu'elle vient d'un philosophe existentialiste a priori apolitique, philosophiquement. Je ne parle pas de ses opinions personnelles. Mais la philosophie existentielle, c'est une philosophie de la liberté individuelle comme constitutive de la conscience, et donc son débouché politique est très improbable. Le ralliement de Sartre à la philosophie de l'histoire marxiste, dont il propose une réinterprétation à sa manière, 1960-61, on a le sommet, en effet, du crédit des philosophies de l'histoire. Et après, commence une entreprise de déconstruction qui va prendre, là aussi, différents canaux, avant d'aboutir, une vingtaine d'années plus tard, au collapsus complet. Mais bien évidemment que en réalité, la faiblesse supplémentaire des philosophies de l'histoire au regard de la philosophie traditionnelle, c'était après Hegel, de n'avoir pas grand-chose à dire du problème de la connaissance. C'était ça la faiblesse philosophique. La philosophie marxiste de la connaissance, c'est une philosophie de la conscience mystifiée et de la science possible au-delà de la... Ça va pas loin. C'est le matérialisme, pour le dire d'un mot. Bon. Donc, effectivement, philosophiquement, c'est pas très satisfaisant. Ça va pas loin. Donc, il est normal que, dans tous les cas, il subsistait une philosophie en dehors de la... indépendante des philosophies de l'histoire, qui n'ont été que des philosophies de la politique, qui ne couvraient pas l'entièreté du champ philosophique, et quand elles le faisaient, ça donnait le matérialisme dialectique version soviétique, dont ceux qui ont eu à le pratiquer ne gardent pas un bon souvenir. Du point de vue philosophique, c'était un peu pauvre. Voilà.
Vous avez fait le terme de limite, l'idée de limite dans le développement. Vous avez peut-être limite de ressources, limite d'espace, les sortes de pollution, ou la fin d'une vision prométhéenne du développement plus généralement.
C'est un des points cruciaux que je vais essayer de clarifier. Ben, toutes les limites que vous avez dites existent. Elles sont patentes. J'ai lu dans le journal hier que nous n'aurions bientôt plus de diamants. Tragédie pour l'humanité. On a même la date, pratiquement, semble-t-il, du moment de l'épuisement final des ressources en la matière. Donc toutes ces limites existent. Mais je pense qu'il y a une limite d'un ordre plus philosophique qui les conditionne, en réalité, justement, qui est et c'est ce qu'on verra, qui est la limite interne de l'universalité abstraite dans ses possibilités de s'imprimer dans la réalité. Celle-là, on peut faire des diamants artificiels, mais on ne peut pas faire de l'universel artificiel. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est le point clé un peu de l'analyse que je vais essayer de... développer.
Bonjour monsieur. Si on doit forcément donner raison à Alain Badiou, quant à sa référence à 1840, parce que c'est vrai que notre temps a complètement oublié les luttes des classes et la condition prolétarienne, est-ce que quand on vous écoute, c'est pas à une décennie plus tôt qu'il faudrait se référer? Et notamment dans toute cette période des grands historiens et qui ont permis, après ce bouleversement de la Révolution, à se resituer dans le temps et à prendre véritablement conscience de la condition dans laquelle ils étaient placés après ce bouleversement de la Révolution.
Ça, c'est une question très intéressante parce qu'il y a en effet une chronologie qui est très significative à dégager dans cette espèce d'histoire de l'orientation historique que je traçais. Justement, par rapport à ce que j'essayais de dire, la réponse à votre question, c'est non. Cette génération des historiens qui se forment dans les années 1820, en réalité, et qui se déploie dans les années 1830, y compris dans le fait qu'elle trouve les institutions où son travail peut s'insérer, cette génération-là est en fait une génération, j'emploie le terme, non pas du tout au sens philosophique, technique, mais au sens culturel, si l'on veut, une génération hegélienne. Elle est très contemporaine du hegélianisme. C'est dans le sens où sa tâche est la justification du présent. C'est comme ça qu'elle la comprend. Et la justification du présent, c'est le présent libéral, le présent de la réconciliation entre libéralisme tel qu'il se comprend à l'époque, évidemment, hein, la réconciliation de la révolution et de l'ancien régime dans la monarchie constitutionnelle. C'est l'esprit commun. Donc la liberté dans un cadre de l'héritage historique avec lequel il s'agit de composer. La nouveauté des années 1840, c'est la rupture générale avec cet hegélianisme, encore une fois au sens le plus large du mot, avec l'idée précisément que les ressources de l'orientation historique telles que le monde de l'industrie les révèle dans toutes les dimensions. Hein, il y a les Saint-Simoniens qui dessinent l'organisation d'une société industrielle. C'est aussi la misère prolétarienne et c'est aussi la puissance dynamique de l'industrie dont on commence à comprendre qu'elle va transformer complètement la condition humaine. C'est, autrement dit, si vous voulez, l'axe intellectuel du travail de réflexion sur l'histoire passe de la justification du présent libéral à la réflexion sur l'avenir révolutionnaire inscrit dans le présent industriel. C'est un changement profond de direction de la réflexion proprement historique et qui va s'imprimer dans l'histoire elle-même, dans la science historique. Donc je crois qu'il faut, comprendre le mouvement qui permet de passer de l'un à l'autre. Il y a vraiment une originalité profonde des années 1840, y compris philosophiquement, les jeunes hegéliens allemands, mais ils ont leur équivalent dans le socialisme français sous une autre forme. Et ailleurs, en Angleterre, dans le mouvement chartiste, etc., tout ça dessine un autre univers que celui des historiens libéraux des années 1820-1830. Donc on sait bien les années 1840 qui nous intéressent directement, pour autant qu'elles ouvrent sur l'idée d'un inédit historique, un inédit historique radical, qui n'est pas celui des historiens des générations antérieures. Ah, oui, j'ai été trop rapide, c'est un fait.
Vous avez suggéré, je crois, que le passage à l'évidence historique des grands principes de la modernité, figé en quelque sorte la réflexion, et qu'elle empêchait même de repérer les formes successives que prenait le déploiement moderne. Et vous avez ajouté que la philosophie politique était en quelque sorte comme une sorte de machine à gripper qui empêchait ce travail de la réflexion de se poursuivre. Alors je voudrais bien que vous m'en disiez un peu plus de cette responsabilité de la philosophie politique. Et surtout, en quoi vous-même, en tant que philosophe politique, vous échappez à ce piège
J'essaie d'y échapper, et au moins d'en être un peu conscient. Mais c'est déjà... Ça s'exprime d'ailleurs, puisque nous parlions de l'actualité philosophique, ça s'exprime très bien dans ce dont nous avons eu le spectacle intellectuel au cours des 30 dernières années. Collapsus du marxisme, comme doctrine de l'histoire et de la politique dominante, y compris chez des gens, encore une fois, qui travaillaient sur tout à fait autre chose dans leur travail propre. Hein, mais la doctrine de référence, pour comprendre la société, la politique, l'histoire, c'est le marxisme. Collapsus du marxisme, on revient à la philosophie politique classique. C'est toute la renaissance de la philosophie politique qui n'existait simplement pas dans le monde académique, français ou européen en fait, parce qu'elle avait aussi été largement captée par les sciences sociales. Retour de la philosophie politique classique, c'est-à-dire à quoi ? C'est-à-dire aux philosophies du droit contractualiste. Alors, la question étant l'amélioration de ces philosophies contractualistes par rapport à leur version canonique. La grande, la grande innovation en la matière venant des États-Unis avec la philosophie de Rawls. Comment concevoir contractuellement la genèse juridique d'une société juste, à la lumière évidemment des expériences qui ont enrichi beaucoup la notion de contrat social depuis Rousseau. Mais néanmoins, on est dans... on avait d'un côté le tout histoire, le matérialisme historique, et on passe au tout juridique. Mais on oublie quelque chose en route. Et ce quelque chose en route est lié au piège, à ce que j'appelais le piège de l'explicitation, qu'on a vu fonctionner très bien dans l'histoire à plusieurs reprises. À partir du moment où il y a émergence d'un ensemble explicite de principes qui ont, en l'occurrence, vocation à gouverner la collectivité, c'est pas n'importe lesquels, et ils la couvrent exhaustivement, c'est-à-dire ils donnent la raison du statut des personnes, du statut du pouvoir, des rapports qui existent entre eux. À partir du moment où vous avez ces principes explicites, raisonner sur la vie collective devient raisonner selon les principes explicites qui doivent y présider. Il n'y a rien non dehors. Donc, c'est ce qui va donner le débat séculaire entre le droit bourgeois et le marxisme. Mais il y a bien un piège de l'explicitation, c'est-à-dire une extrême difficulté à sortir du point de vue des principes pour prendre en compte une réalité qui leur est extérieure et avec laquelle ils ont cependant quelques rapports. La bonne démarche me paraît être justement d'essayer de comprendre ces rapports. Sans vouloir dire le droit n'existe pas, parce que tout ça c'est une mystification superficielle derrière, il y a des forces profondes qui sont les seules choses importantes, et sans non plus ignorer effectivement l'existence de l'insertion de ces principes dans une vie collective qu'ils organisent mais qu'ils ne comprennent pas entièrement. Alors, comment on lit ça? C'est ce qui me conduit personnellement, c'est ma manière d'y répondre, à une lecture pluraliste de la modernité. C'est-à-dire, la modernité, c'est pas une chose. C'est pas le politique. Ça l'est pour une partie. C'est pas le droit, même si c'est très important. C'est pas que l'histoire, même si c'est une réalité existante. Je crois que hors de ce pluralisme, essayant d'articuler et de comprendre des liens qui existent entre ces différents éléments, qui ne sont pas simplement des entités hétérogènes qu'il s'agirait de mixer dans un shaker, c'est pas comme ça que ça se passe. Quels sont leurs liens et les difficultés de les ajuster? Étant entendu que nous sommes dans un moment très particulier où précisément la force acquise par l'explicitation des principes de droit de nos sociétés, qui est une dimension, encore une fois, qu'il ne s'agit pas de marginaliser ou de critiquer. C'est une partie de la réalité de nos sociétés, mais cette partie est hégémonique et cache tout le reste. Nous sommes passés dans le rejet, dans l'implicite, de tout ce qui n'est pas principe explicite. C'est aussi ça, d'ailleurs, la société de la connaissance. Nous avons des connaissances précises, des principes sur lesquels nous sommes d'accord. Il n'existe rien en dehors. Bien si, il peut exister des réalités qui ont un rapport intime même avec cette explicitation, et c'est ça qu'il s'agit de décrire. Je ne crois pas qu'on puisse échapper à cette pluralisation du regard, qui est la chose la plus difficile à mener, toujours, puisque nous savons très bien que les points de vue unilatéraux ont une vigueur qui emporte tout sur son passage. Mais nous avons aussi une expérience intellectuelle qui nous permet de rectifier cet unilatéralisme.
Est-ce que ça ne... Excusez-moi, une question qui peut-être s'inscrit dans la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un autre préjugé des philosophies de l'histoire qui est assez massif, celui selon lequel l'histoire serait le développement de principes de droit interne, par rapport auquel l'extériorité serait secondaire, je ferais tout au plus que révéler soit des contradictions internes, soit des potentialités internes. Et je me demandais si le propre de l'histoire n'est pas que les causes externes ou des accidents externes peuvent avoir un rôle difficilement rationalisable, mais tout à fait important. Et dans cette mesure, est-ce que vous accepteriez l'idée d'une histoire qui serait du même coup plus incertaine, peut-être plus tragique ou plus dramatique, et qui serait soumise à ce non rationalisable, qui est une irruption toujours possible de l'extériorité des règles humaines représentables ou rationalisables. Alors je sais bien que dans le monde actuel, globalisé, l'extérieur tend à s'internaliser, et la rationalité tend à gérer dans une gouvernance de plus en plus régulatrice tout ce qui pourrait être ce que l'histoire classique représentait sous la forme d'un choc extérieur entre des masses, des puissances, des peuples, des nations, etc. Mais est-ce qu'il ne reste pas présent dans l'expérience ce fond irréductible d'extériorité que les historiens qui acceptent que l'histoire ne soit pas une science, me semble-t-il, ont peut-être plus vu que les philosophes de l'histoire?
Bon, sur ce point, je vous suis entièrement. J'ai plus de mal. Je ne vois pas à quelle philosophie de l'histoire vous faites allusion dans votre préambule. J'ai pas bien compris à quel type de philosophie de l'histoire vous faisiez allusion. Si je puis dire, c'est pas cette idée d'un développement nécessaire, il fait partie, c'est pas un autre présupposé que ceux que j'ai décrits, c'est tout ce que je voulais dire. Si c'est ça, on est bien d'accord. On peut ensuite détailler la manière dont cet axiomatique se développe, mais on est à l'intérieur du cercle des principes fondamentaux que j'ai dégagés, c'est tout ce que je voulais dire. Alors oui, mais bien sûr qu'il y a une part essentielle non rationalisable. Mais il y a une manière. Je crois qu'il faut distinguer deux plans pour se tirer de cette difficulté extrêmement épineuse. En effet, classiquement, vous y avez fait allusion, la figuration de cette contingence de l'histoire, c'était la guerre. Parce que, comme disait Napoléon, dans le brouillard du combat, on ne sait pas très bien qui c'est qui va gagner. Quelquefois, d'ailleurs, on ne sait pas qui a gagné. Dans la bataille. Hein, c'est... Mais ça, je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire l'effectuation de l'histoire qui est suspendue à mille contingences de toute nature. Et puis, le sens que l'expérience historique a pour les acteurs, qui est d'un autre ordre, parce qu'ils s'adaptent à ces contingences et ils en donnent des interprétations qui sont créatrices d'un cadre dont on peut reconstituer l'intelligibilité, dans tous les cas, indépendamment de cette contingence dans l'effectuation. Ce sont deux plans différents. Et je crois que j'ai un bon exemple que je ne vais pas développer maintenant parce qu'il nous emmènerait trop loin, mais que je vais utiliser dans la suite de mon propos pour le montrer. C'est-à-dire, l'énonce simplement, qui pouvait prédire sérieusement la chute du mur de Berlin et qui pouvait prédire, en fait, l'implosion du système soviétique de l'intérieur. Et il y avait d'excellentes raisons de penser que c'était un système arrivé au bout de ses limites, il était dans une stagnation et un affaissement qui était très repérable, et beaucoup de gens ont écrit des choses très pertinentes là-dessus. On pouvait mesurer le fait que l'Empire se fissurait à l'intérieur de l'Union soviétique, et dans l'Est européen, où la domination stalinienne était de plus en plus remise en question, mais on ne pouvait pas prévoir, à proprement parler, l'effectuation, les conditions absolument surprenantes dans lesquels ça s'est passé, alors là que personne n'avait anticipé. Souvenez-vous, il y a un texte qui est très intéressant à relire dans cette lumière, c'est la lettre ouverte aux dirigeants de l'Union soviétique de Solzhenitsyn, qui date de quelques années. Et justement, sa crainte, mais qui était celle de beaucoup de gens, y compris dans les dirigeants politiques à l'Ouest les moins suspects de philo-communisme, c'est que ça se tourne très mal dans une espèce de bain de sang épouvantable qu'on n'avait pas tellement envie de voir à côté de nous. Et avec un certain nombre de gens qui vous disaient tranquillement que, somme toute, ce régime en train de se ramollir et de devenir de moins en moins totalitaire, simplement autoritaire, était un moindre mal par rapport au chaos sanguinaire que donnerait son effondrement révolutionnaire. Parce qu'on pouvait imaginer la sortie de l'Union soviétique, ce qui est très drôle, que sous la forme d'une révolution qui allait de l'intérieur chasser les titulaires du pouvoir. On était dans un schéma très déterminé, en fait, et faux. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Qui pouvait prévoir la manière dont ça s'est passé? Personne. Mais néanmoins, la manière dont ça a été interprété par les acteurs, elle, fait tout à fait sens du point de vue d'une cohérence de l'histoire de la démocratie et du totalitarisme telle qu'on peut la reconstituer et telle qu'on pouvait la reconstituer avant la chute de l'Union soviétique. Vous voyez, il y a deux plans très différents. Et bien entendu que la manière dont ça s'est passé n'est pas indifférente. Je ne veux pas dire que ça se situe sur un autre plan et qu'on n'en a rien à faire. Mais la greffe de l'interprétation que les acteurs en donnent est déterminante pour l'insertion dans le cours d'une histoire intelligible. C'est là que ça se passe. Pas sur le plan de l'effectuation. Et les idées des acteurs ne sortent pas des événements tels qu'ils ont eu lieu. Ce qui compte, c'est l'interprétation qu'ils en donnent. Il n'y a pas de matérialisme de l'événement à substituer au matérialisme de l'infrastructure, comme c'est une tendance qu'on voit chez un certain nombre de disciples intempérants d'Anna Arendt, la nouveauté de l'événement, l'inédit radical de... Non, il y a... L'inédit radical, il n'en surgit pas beaucoup dans l'histoire. Ça arrive, mais pas souvent. On est au contraire dans des continuités de réinterprétation qui permettent d'avoir une signification intelligible de l'histoire sans aucune nécessité ni prédétermination, comme vous l'évoquiez, et une attention très grande, au contraire, aux conditions dans lesquelles ça se passe effectivement. C'est pour ça que le travail des historiens conserve tout son sens. Sinon, on n'en aurait rien à faire, effectivement. On dirait, vous voyez, ça, c'est parfait. C'était d'ailleurs ce à quoi aboutissait très souvent le marxisme dogmatique, et avec tous les problèmes amusants que ça posait, de communistes sincères qui faisaient une belle thèse de doctorat hétérodoxe, fatalement, parce que les événements ne collent jamais tout à fait au modèle théorique et qui se voyaient fortement suspectés dans leurs convictions par le caractère hérétique de leur démonstration. Donc la féodalité, ça, là-bas, c'était pas tout à fait le modèle. Comment? C'est pas possible. Donc c'est... Vous pouvez que vous vous êtes trompé. Et qu'on excluait du parti pour ce motif, car il y a quelques cas illustres dans le champ qui ne s'en remettaient jamais. Je ne comprenais pas. Là. Non, il ne s'agit pas de dire... Il ne s'agit pas de tomber dans ce genre de choses. Mais le travail des historiens a du sens parce que la façon dont les choses se passent a du sens du point de vue de l'interprétation que nous pouvons donner du cours de l'histoire. Voilà. Donc la reconstitution minutieuse des conditions d'un événement est pleine d'intérêt.
Et pour le coup, cette orientation historique que vous remettez au bout du jour, pour le coup, permettrait à l'histoire de se remettre en marche, afin de donner cette...
C'est une espérance modeste.